som om jeg om det knæs liv bliver. On a commencé, bismillah salatu salam ar rasulillah, on a commencé déjà depuis hier et on s'est arrêté sur un nouveau chapitre qui est salatu tatawwu, c'est-à-dire les prières facultatives. Et avant de commencer, inshallah, ce nouveau chapitre, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions concernant les prières obligatoires? Il y a très longtemps qu'on a traité ce sujet, depuis plusieurs semaines, ce grand sujet, ce grand chapitre, qui est le chapitre des prières obligatoires. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres, si vous n'avez pas de questions sur ce chapitre des obligations, on commence à sur les facultatives, qu'on appelle les surrogatoires. C'est oui.
Normalement, si on a fait une prière, disons, c'est maintenant déjà le Aïcha, et je n'ai pas encore prié le Maghreb, je dois d'abord prier le Maghreb après le Aïcha, n'est-ce pas?
Ça dépend où vous êtes. Si vous êtes chez vous, à ce moment-là, vous devez respecter l'ordre. À savoir, vous faites tout d'abord le Maghreb, et puis vous faites l'Aïcha. Maintenant, si vous n'avez pas fait le Maghreb et vous venez à la mosquée, vous trouvez l'imam en train de faire l'Isha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux avis. Premier avis, et c'est celui que je crois le plus juste, c'est faire l'Isha avec l'imam, parce que suivre l'imam est une obligation. Faire l'Isha avec l'imam, et après, vous faites le Maghreb, que vous n'avez pas respecté. Et comme ça, vous avez fait les prières de la journée. Il y a le deuxième avis qui dit, vous faites l'Isha avec l'imam, et vous refaites le Maghreb, et vous refaites l'Isha. Et l'Isha que vous avez fait avec l'imam, c'est quelque chose de facultatif pour vous. Cet avis, il dit, parce qu'il faut respecter l'ordre. Parce que selon le premier avis, vous avez alterné, c'est-à-dire l'Isha puis le Maghreb. Moi je me rappelle, il y a très très longtemps, c'était mon avis. J'avais tout le temps dit à ceux qui me posaient cette question, c'est-à-dire il faut faire l'Isha avec l'imam et faire le Maghrib, puis refaire l'Isha. La même chose se pose pour l'Asr et l'Dhuhr. Mais un jour, il y avait un grand savant à côté de moi et un frère m'a posé cette question. Et moi, par politesse, je la transmets à ce savant, il dit non, c'est ta question. Et moi, j'ai donné cette réponse. Mais j'ai dit, mais le cheikh, il est à côté, il peut donner un autre avis. Et certes, le cheikh, il a dit, oui, j'ai un autre avis. Il y a des savants qui ont dit le même avis que le frère Youssouf, mais il y a un autre avis qui dit qu'il faut faire l'Isha et faire le Maghreb sans refaire la prière que vous avez faite avec l'imam. Et la raison pour lui était une raison valable et beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus authentique que la mienne. Il a dit, le fait de dire de refaire l'Isha, c'est comme si cette prière n'était pas valable. Et cette prière, dans l'application, elle était valable. Et à ce moment-là, au lieu de dire qu'il n'y a que 5 prières, vous avez dit qu'il y a 6 prières. Et le poids de 5 obligations, c'est un poids immense. On n'a pas le droit de dire 6. Parce que on n'a pas le droit de dire ni 4 ni 6. 5, c'est 5. Mais on a le droit de faire bouger l'ordre des prières. On a le droit de faire l'Isha avec le Maghreb ou d'autres. Donc le temps des prières est beaucoup moins important que le nombre des prières. Et je crois que ça c'est vrai. Parce que le décret du nombre, c'est un décret divin. C'est Allah qui a dit, c'est 5 prières. Donc je crois que l'avis le plus juste, c'est de ne pas refaire l'Isha.
Et donc pour le Asr, ce serait la même chose, parce que quelqu'un m'a dit que l'Asr, c'est très important, si c'est déjà l'heure de l'Asr, tu ne peux pas faire le Dhuhr avant. Parce que c'est très important, si je suis à la maison par exemple.
Oui, vous faites le Dhuhr puis l'Asr. Non, c'est le même ordre. Non, c'est Dhuhr et l'Asr. Et toutes les prières sont obligatoires.
Ouais.
Mais seulement, il y a certaines qui ont un peu plus de mérite que les autres. Mais autrement, toutes les prières sont obligatoires.
Il n'y a pas aussi une histoire avec moins de 5 prières ratées ou plus. Alors, entendu, si on raté moins de 5 prières, on rattrapait par ordre, et au-delà de 5, c'était celle qui...
Je crois d'une manière générale, la prière est très très simple. C'est d'une manière générale, la prière du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est la référence. C'est une pratique très très simple. La complication, elle vient des écoles et elle vient des hommes. Mais celle du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est quelque chose de très 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 simple. La règle générale, c'est que des fois, si ce que vous avez raté est énorme, quelqu'un qui n'a pas fait la prière 5 ans, 10 ans, 3 ans, même moi je crois même une année, c'est énorme, même une année c'est énorme. Ben, qu'est-ce que je dois lui dire? Ben, ne fais rien. Commence à faire la prière et laisse-nous tranquille. Et fais les prières facultatives, et fais la générosité, et fais les sadaqat, et ben voilà, c'est bon. Et Allah efface avec son pardon tous vos erreurs ou vos péchés. Imaginez quelqu'un qui a vécu dans la mécréance toute sa vie. Quelqu'un qui a vécu une vie satanique, durant 90 ans, et une journée avant sa mort, il s'est converti et a demandé le repentir. Est-ce qu'Allah l'accepte ou non? La certitude. Est-ce qu'il l'accepte ou non?
Oui,
vraiment, il faut dire oui, c'est sûr. Donc, c'est ça la relation avec Allah. C'est ça, c'est une relation qui est basée sur le pardon. Et la règle, c'est que notre relation avec lui, c'est le pardon. Et la relation entre les hommes, c'est la difficulté. En arabe, on dit « Al-alaqatu bihi ala al-musamaha »« Wal-alaqatu bin-nas ala al-mushaha » C'est la difficulté. Donc, au lieu de dire à quelqu'un de refaire toutes ses prières, ça sera au dépend de la qualité. Il vaut mieux lui dire « Non, Allah pardonne. » Et recommence une nouvelle vie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est quelque chose de supportable, quelqu'un qui a oublié une prière, deux prières, une journée, deux journées, ainsi de suite, oui d'accord, il doit le faire. Mais si c'est quelque chose d'énorme, il ne le fait pas. C'est la raison pour laquelle la femme, au moment de la période, elle ne doit pas récupérer la prière. C'est ça la raison. C'est que la relation, c'est le pardon. Autrement, il fallait aussi le faire. Le ramadan, si vous devez le récupérer, c'est parce que c'est un moment durant toute l'année. Mais les prières, non, on ne peut pas le faire, autrement ce serait une difficulté immense. Imaginez, chaque mois, vous devez refaire la prière de 7 jours. C'est une difficulté inimaginable. C'est pour ça, la base de la relation, c'est le pardon. La sœur, elle dit non.
Mais c'est un peu ce que vous avez dit.
Moi, je préfère suivre avec l'imam à l'intérieur comme l'extérieur. Parce qu'on dit l'intérieur, c'est l'intention. Donc il vaut mieux respecter l'intention de l'imam. Mais si vous me posez une autre question, c'est que, et celle-là, elle arrive surtout le ramadan. Vous arrivez, vous trouvez l'imam en train de faire tarawih. Est-ce que vous avez le droit de faire avec l'intention du isha? Oui, c'est possible. Il y a plusieurs fatwas. Oui, c'est possible parce que il il est autorisé à ce que l'imam fait le facultatif et moi je fais l'obligatoire. Il est autorisé à ce que l'imam fait une prière obligatoire qu'il a déjà fait lui, c'est-à-dire pour lui c'est facultatif. Et ceux qui sont derrière, ils la font obligatoire. Il y avait Mu'ad radiallahu anhu, il faisait la prière avec le prophète, alayhi salatu wasalam. Il était derrière le prophète. Et puis il va chez lui, et sa tribu l'attendait, parce que la tribu ne savait pas faire la prière. Et c'était l'imam, Mu'ad était l'imam de la tribu. Donc il arrive et il faisait la prière comme imam. Donc pour lui cette prière, est-ce que c'était l'obligatoire ou facultatif? Donc c'était facultatif pour lui. Mais pour eux, c'était obligatoire. Donc selon cette règle, l'imam il fait le tarawih et vous faites l'obligatoire. Ça, je crois, c'est autorisé chez une petite minorité de savants, pas la majorité. Parce que la majorité, il dit, et ça c'est un avis respectable, le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, qui dit, « Innama ju'ila l'imamu liyu'tamma bih. » L'imam n'est fait que pour être un exemple à suivre. Et un exemple à suivre, c'est dans l'intérieur comme l'extérieur. S'il fait l'intention obligatoire, on fait obligatoire. Et ça, je crois, c'est un avis très très juste. Wallah. D'accord. At-tatawwur. La première règle que vous devez maîtriser, c'est que si vous voulez à ce que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, vous aurez cette qualité et vous aurez cette chance d'aimer Allah. Ce n'est pas donné à la portée de n'importe qui. C'est que Allah aime ce que vous faites. L'œuvre que vous faites, si vous voulez qu'elle soit aimée par Allah, c'est que vous devez faire l'obligatoire. Et ainsi, il accepte ce que vous faites. Mais si vous voulez que vous soyez aimé, pas seulement l'acte que vous faites, mais vous-même, que vous soyez la cible de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous ayez cette relation de spontanéité avec lui, c'est que vous dites, vous demandez, il vous donne. Vous demandez assistance, il vous assiste. Vous demandez refuge, il vous donne le refuge. Vous dites, Ya Allah, il vous dit, je suis. L'acte que vous faites, il est béni et accepté. La parole que vous prononcez, c'est une parole correcte. C'est-à-dire, toutes vos activités, soit des activités dont l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites les œuvres facultatives. Le prophète alayhi salatu salam a dit ce hadith Qudusi. Je souhaite que vous le preniez comme une grande règle. Cette règle dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Et la chose que j'aime de le plus de la part de mon serviteur, ce sont les obligations que j'ai prescrites sur lui. C'est-à-dire, Allah aime ce que vous avez fait. C'est pour ça, si vous voulez offrir un cadeau à ce que vous aimez, ben vous lui offrez quelque chose qui lui fait plaisir. Dans la valeur, dans la façon, et ainsi de suite. De que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben il faut lui offrir la chose la plus belle. C'est pour ça, votre prière, surtout cette prière obligatoire, ben c'est un moment. C'est un moment d'un grand amour avec Allah. Vous devez la faire de la meilleure manière. Al-Hassan ibn Ali, petit-fils du prophète, alayhi salatu wasalam, avant de sortir à la mosquée pour faire la prière, il mettait ses habits les plus chers. Il mettait son parfum le plus cher. Et il était comme une fleur. À tel point que sa femme se disait, mais où il allait? C'est à la fin quand quelqu'un a osé lui poser cette question, et surtout petit-fils du prophète, alayhi salatu wasalam, il était la source de toutes les jalousies, et surtout le prophète a dit sur lui, mon garçon, celui-là, est un seigneur. Ibn Abni Hada Sayyid. Et il a dit un jour, il fera beaucoup de bien pour les musulmans. Et c'est vrai. Et après, il a fait beaucoup de bien pour les musulmans. Al-Hassan al-Basri, Al-Hassan ibn Ali, lorsqu'il sortait pour faire la prière, il mettait ses habits les plus chers. Et lorsqu'il avait une rencontre avec le prince ou le roi ou quoi que ce soit, il mettait ses habits normaux, comme tout le monde, sans se démarquer des autres. C'est-à-dire, il allait rencontrer le roi, ben il mettait les habits de tout le monde, pour ne pas se démarquer, pour qu'il ne soit pas visible. Mais lorsqu'il allait à la mosquée pour les 5 prières, ben il était remarquable, et remarqué par tout le monde. Et à ce moment-là, un jour, quelqu'un a osé lui poser la question, il dit, mais pourquoi lorsque tu allais à la mosquée, tu mettais tes plus beaux habits, et lorsque tu allais visiter le calife, tu allais avec tes habits normaux? Il a dit, n'as-tu pas entendu ce que Allah nous a ordonné de faire? Il a dit, non. Il a dit, tu n'as pas lu un verset coranique qui dit, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ô vous les fils d'Adam, prenez votre parure en allant à la mosquée. Il a dit, mais est-ce que tu as oublié à qui je porte cette parure? À ce moment-là, ils ont compris un sens que les autres n'ont pas compris. Et malheureusement, beaucoup de musulmans, lorsqu'ils viennent à la mosquée, on a rien d'oublié dans un état déplorable. Mais aussi, à l'intérieur de chez vous, ce n'est pas une raison de faire la prière avec un pyjama, comme c'est le cas de beaucoup de gens. Non, même chez soi, ben, il faut s'habiller correctement. Je me rappelle de ma grand-mère, lorsqu'elle faisait la prière, elle mettait un drap de chez elle, elle s'enveloppait, on dirait, comme ça, elle faisait la prière de cette façon-là, elle était satisfaite d'elle. Bon, elle était âgée, c'est tout ce qu'elle pouvait faire, mais au contraire, chez vous, ben, vous mettez vos plus beaux habits, ce que vous avez de meilleur pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que vous voulez aimer ce que vous faites, respectez les prières obligatoires. Vous voulez qu'il vous aime, vous, ben faites les prières facultatives. La même chose pour zakat, la même chose pour le ramadan, la même chose pour le pèlerinage. Il aime votre zakat. Il aime l'aumône que vous avez donné. Mais vous voulez qu'il aime la main qu'il a donnée, le corps qu'il a donné, ben donnez aux pauvres d'une manière facultative. Le ramadan, c'est la même chose. C'est une règle général dans tous les domaines, de l'islam. Il y a aussi ce hadith du prophète alayhi salatu salam qui nous montre la valeur des prières facultatives. C'est lorsque la personne se met devant Allah subhanahu wa ta'ala et Allah constate qu'il y a des failles dans ce qu'il a fait d'obligatoire. Il y a des erreurs. Il y a des lacunes. Et Allah s'adresse aux gens et il leur dit, est-ce que mon serviteur a fait des actes facultatifs? Lorsqu'ils disent oui, il a dit, ben, compensez l'erreur qu'il a faite dans l'obligatoire par les prières facultatives. Donc vous devez aussi comprendre, ce que vous faites de facultatif est une réparation. C'est une réparation à ce que peut-être vous avez commis d'erreur par rapport à la prière facultative, à la prière obligatoire. Il y a aussi une autre règle que beaucoup aussi de musulmans ignorent. Moi, j'ai vu seulement nos savants qui la font, c'est que la prière facultative se fait chez soi, pas à la mosquée. Le prophète, alayhi salatu wasalam, d'une manière générale, il faisait la prière obligatoire, puis il rentrait chez lui. Il rentrait chez lui pour faire la prière facultative avec sa famille. Comme ça aussi, il donne à sa maison une certaine vie. Et il a dit surtout, il a dit, alayhi salatu wasalam, il a dit, si quelqu'un de vous a fini sa prière à la mosquée, il doit réserver une partie de sa prière dans sa vie privée. Parce que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala a fait beaucoup de bien dans la prière qu'il a faite chez soi. Et ça aussi, c'est pour ça peut-être que pour la femme musulmane, la prière chez soi a des mérites, justement parce qu'il y a un autre hadith du prophète Sarsan qui a dit, ne faites jamais que vos maisons soient des cimetières. illuminez vos maisons par la prière. Et ce, par la prière, c'est dans le sens de la prière facultative. Et elle est meilleure, d'une manière générale, faire la prière facultative chez soi, elle est meilleure que la faire dans la mosquée. La prière obligatoire. Si vous la faites ici à la mosquée, vous allez être récompensé. La récompense est identique. Sauf si dans le chemin de la mosquée, il y a des choses qui peuvent vous porter atteinte et ainsi de suite. À ce moment-là, il faut la faire chez soi. Mais aussi la prière de la femme musulmane dans la mosquée, c'est la même récompense. Surtout que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, n'interdisez jamais les femmes de venir à la mosquée. C'est pour ça que les femmes de la première mosquée de l'islam, elles avaient là de derrière, la partie arrière de la mosquée, elle était réservée pour les femmes, et il n'y avait qu'une seule porte. C'est pour ça qu'elles étaient ordonnées de rester un peu jusqu'à ce que les hommes quittaient la mosquée, vu qu'ils avaient des obligations et des travaux. Mais à la fin, il a ordonné à ce qu'on ouvre une porte vers le nord, elle était réservée pour la femme musulmane. Il a dit, alayhi salatu wasalam, aussi un hadith pour dire la valeur de la prière d'une manière générale, et surtout, ce qui nous concerne la prière facultative, il a dit, tu ne fais pas une prosternation pour Allah, une seule. Il t'élèvera un degré, et il te donnera une bonne œuvre, et il enlèvera une mauvaise. À chaque prosternation, imaginez combien de prosternations que vous faites, il vous élève un degré. Moi je me rappelle en Arabie Saoudite, lorsqu'on est allé faire le premier jour de notre séjour là-bas, on a vu un phénomène qu'on n'a jamais vu. C'était des gens, des vieux, à la prière du vendredi, ils arrivaient à la prière vers 8h, 9h. Il était très conseillé de venir très tôt, chose que nous faisons. Mais nous, normalement, on prenait le Coran, on faisait une prière, deux au maximum, et on prenait le Coran. Et on lisait tranquillement. Et on révisait notre lecture du Coran. Mais tout d'un coup, on a vu des gens qui commençaient à faire la prière sans arrêt. De 9h30, de 10h jusqu'à midi. Sans arrêt, jusqu'à ce que l'imam se lève. Parce que c'est un moment d'ouverture, c'est libre, vous pouvez faire 200, 400, ce que vous voulez. Il y avait des gens qui ne s'arrêtaient pas. De 9h, il y a même, on nous a dit qu'il y a des gens qu'après le fajr, ils ne s'arrêtaient pas à faire la prière jusqu'à dhuhr, sans arrêt. Et malheureusement, ce ne sont que les vieux qui faisaient ça. Et les jeunes, il n'y avait aucun jeune. Pour dire que la vraie force, ce n'est pas la force des muscles, mais c'est la force de la volonté. C'est pour ça, si on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous élever un degré auprès de lui, il va vous donner, inshallah, vous donner une bonne œuvre, il va, inshallah, enlever une mauvaise, mais inshallah, faites le maximum que vous pouvez. D'une manière générale, si vous faites les prières facultatives, se mettre debout, d'une manière beaucoup plus longue et meilleure que faire plusieurs rak'ah. C'était la façon du prophète alayhi salatu wasalam. Des fois, il faisait deux rak'ah ou une. Un jour, il a fait une seule rak'ah. Une seule. Et il l'a fait toute la nuit. Toute la nuit, jusqu'à ce que le sang a coulé de ses talons. Vous connaissez l'événement. On a posé cette question au prophète alayhi salatu wasalam, parmi les œuvres, quelle est la meilleure? Et il a dit, pour l'ulqiyam, se mettre debout d'une manière très très longue. Et ça c'est seulement pour celui qui l'a fait chez lui, ou à la mosquée seule. Mais pour l'imam, il est interdit de faire de longues prières. Et le prophète alayhi salatu wasalam a interdit, si vous faites la prière avec des gens, ben, il faut la faire d'une manière courte. Ça, c'est la règle. C'est pas est-ce que vous avez les imams de la Mecque ou de Médine, c'est la même chose. Ben, ils font, je crois que c'est la meilleure des prières. C'est-à-dire, elle est équilibrée, elle est courte, il ne faut pas faire de, de très longues prières. Certaines prières qui étaient faites par certains de nos frères durant le Ramadan, elle était très critiquable. Et moi, personnellement, je n'ai cessé de dire à ces visiteurs, réduisez, mais rien à faire, n'ont rien voulu savoir. Mais la règle générale, un jour, quelqu'un est venu, il a déposé une plainte auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Mu'ad, il fait de très longues prières, et nous avons nos obligations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu tout rouge. Il est venu quelqu'un qui a dit, autorise-moi à faire la fornication, il n'était pas en colère, imaginez. Et pour quelqu'un qui a fait de longues prières, il était très furieux. Il a dit, est-ce que tu veux éprouver les gens? Il faut faire les prières courtes, parce que derrière, il y a la mère qui a un bébé, il y a le vieillard, il y a les malades, et il y a celui qui a ses occupations. C'est pour ça, si vous faites la prière avec vos enfants, ou avec des sœurs, la sunna, c'est faire des prières très courtes. La vraie sunna du prophète, c'est faire des prières acceptables dans le temps. Mais chez vous, vous n'avez aucune restriction, faites les prières quand vous voulez. Toute l'année, pas de problème. C'est-à-dire selon ce que vous voulez. La prière obligatoire, il est obligatoire de la faire debout. C'est une obligation qu'il ne tombe que lorsqu'on est dans l'impossibilité de la faire debout, comme le malade. Mais normalement, la prière obligatoire, elle doit être debout. Vous devez être debout. Takbirat ihram, Allahu Akbar, si vous la faites incliner, elle n'est pas valable. Et la prière, elle n'est pas valable. Certains de nos frères, ils courent, et vont Allahu Akbar. Ils font takbira de l'ihram, la première takbira, en s'inclinant. C'est zéro. Toute leur prière est zéro. Elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas valable plutôt. Parce que Allahu Akbar, elle doit sa place, c'est debout. Sauf si vous ne pouvez pas. Vous êtes dans un avion et vous allez arriver après le coucher du soleil. À ce moment-là, vous pouvez la faire. Mais moi, je vous conseille qu'au lieu de la faire dans un avion assise, il vaut mieux la faire chez vous. Si par exemple votre avion c'est à 4 heures, faites à Dhuhr al-Asr chez vous et partez voyager. Comme ça, vous le faites tranquillement, ainsi de suite. Parce que c'est autorisé de le faire. Mais comme ça, assise, oui, ça aussi c'est autorisé. Mais des fois, on a de la peine à faire le dos, surtout dans l'avion, et voilà, rien de là, vous savez certainement cette difficulté. Mais la prière facultative, non. Cette obligation tombe complètement. Comme d'autres obligations, comme la direction de la Qibla. Donc vous êtes autorisé à faire la prière facultative vers la Qibla, comme c'est le cas, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Le prophète alayhi salatu salam se dirigeait par exemple vers le nord. Et la Qibla c'est vers le sud. Il ne peut pas faire changer de voyage et de cap. Il dirigeait son chameau vers le sud en faisant Allahu Akbar. Et puis il tournait son chameau et continuait son voyage. Vous avez compris qu'est-ce qu'il faisait? La Qibla c'est là. La Qibla, c'est vers ce devant. Il disait Allahu Akbar, et puis il reprenait son voyage vers le nord. Donc c'est pas obligatoire de... La même chose pour la station. Vous êtes tranquille chez vous, vous pouvez faire assise, et vous lisez, et vous faites la prière assise, tranquillement. Et le prophète le faisait. Il faisait de très longues récitations assis. Et le hadith... Et celui qui a rapporté, il a dit, et lorsqu'il n'avait que 30 versets, avant de faire recours, il se levait et il récitait 30 versets debout. Pour vous dire que même 30 versets, c'est énorme. 30 versets, c'est quelque chose qui prendra à peu près 20 minutes. Donc il laissait 20 minutes, il récitait 20 minutes debout. Mais combien il a récité assis? Allahu a'lam. Plus qu'une heure, plus que deux heures. Mais il est aussi autorisé à faire la totalité de la récitation assise, et vous vous levez, et vous faites, recours au sujet, et ainsi de suite. Donc vous n'êtes pas obligé d'être debout. Vous n'êtes pas aussi obligé vous êtes aussi autorisé à ouvrir un Coran et de réciter le Coran. Donc, et à lire le Coran dans cette prière, parce que ce n'est pas obligatoire. Le mouvement, on est autorisé à faire ce mouvement de lecture et ainsi de suite. Vous avez compris ça, non? Première des sunnahs, c'est sunnat al-fajr. Est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de vous dire maintenant?
Juste par rapport à la direction, c'est juste pour les prières est-ce qu'on peut les faire dans n'importe quelle direction, c'est juste pour le cas des voyageurs?
Non, il est toujours recommandable de la faire vers le Qibla, comme c'est le cas. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc si vous la faites, normalement on la fait vers le Qibla, dans votre appartement, la Qibla c'est vers ce côté-là, vous n'allez pas comme ça la faire vers l'autre côté, comme ça, non. Donc il est toujours préférable de la faire vers le Qibla. Mais maintenant vous êtes dans un lieu, ou dans une chambre d'hôtel, que vers la Qibla, il n'y a pas de place vers la Qibla, il n'y a seulement vers le nord, et la Qibla c'est vers le sud. Donc vous êtes autorisé à faire la sunna vers le nord.
C'est ça. Pour la prière obligatoire,
non? Ah non, la prière obligatoire, non, la prière obligatoire, c'est... Voilà. Mais seulement la règle, c'est la direction n'est pas obligatoire. La règle, c'est que la station debout n'est pas obligatoire. Par contre, le wudu, c'est obligatoire. Il ne faut pas dire que tout... Non, c'est... On ne peut pas faire, réduction comme ça sur toutes les valeurs. Non, ce qui est autorisé, on vous dit ce qui est autorisable, mais la chose que c'est interdit, c'est interdit. Donc, sunnat al-fajr. Sunnat al-fajr, c'est ces deux petites rak'as que le prophète alayhi salatu wasalam faisait avant la première prière obligatoire. Le moment du soleil, c'est al-fajr. Le moment astronomique, c'est al-fajr. C'est comme le zénith. C'est un moment astronomique. Le coucher du soleil, c'est un moment astronomique. Oui, astronomique. La prière obligatoire se nomme As-Subh. La prière facultative s'appelle Al-Fajr. Parce que des fois, certains, ils mélangent entre les noms. Le moment, donc, c'est Al-Fajr. La prière sunna facultative, c'est sunnatul fajr, ou raghibatul fajr, la sunna du al-fajr, du moment. Mais la prière obligatoire, c'est salatu subh. On est d'accord? Maintenant, on parle de cette petite, qui est sunnatul fajr. Là, c'est la meilleure des meilleures. C'est la plus aimée et la plus préférable pour le prophète, alayhi salatu salam. C'est la plus courte. Le prophète, alayhi salatu wasalam, la faisait en un clin d'œil. Tellement rapide qu'on se disait, est-ce qu'il a récité la Fatiha ou non? Et elle était la plus aimée. Ben pourquoi? Parce que c'est le début de l'adoration. C'est le début de la journée. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, ces deux rak'as, je les aime plus que toutes les parures de la vie terrestre. Il a dit, si un jour une armée vous court dessus et vous êtes en train de faire ces deux sunnas, ben vous devez les continuer à les faire. Même si vous savez que l'armée est juste derrière, ben vous devez continuer à faire de faire cette sunna. D'une manière générale, la sunna, si vous êtes en voyage, moi je vous donne mon avis personnel. D'ailleurs, c'est la vie que je respecte, je fais depuis des années, je ne fais pas de sunna dans le voyage. Toutes ces sunnas, à part deux exceptions, c'est celle-là et la dernière qui est al-witr. Et ça, c'est la vie le plus juste et le plus véridique. c'est que durant le voyage, on ne fait que les obligations. Et rien que les obligations. Certains, ils font deux, par exemple à bord, ils font deux, et ils font quatre, six, huit de prières facultatives. Et ça, c'est complètement... Bon, ce n'est pas interdit, mais ils n'ont pas compris le sens du législateur. Le sens du législateur, c'est qu'il a donné cette autorisation. C'est l'obligation est réduite. Comment lui, il a voulu la faciliter pour vous, c'est qu'il a dit, je ne veux que deux maintenant. Et vous, vous faites deux qui sont obligatoires. Et vous faites quatre, six, huit qui sont facultatives. Nous, on sait que la récompense de l'obligatoire est beaucoup plus. Si vous voulez faire les prières facultatives, ben faites l'obligatoire en sa totalité et on est tranquille. Donc l'avis le plus juste, c'est durant vos voyages, ne faites que l'obligatoire. À part cette prière du Al-Fajr, le prophète alayhi salatu wasalam la faisait tout le temps. En voyage, comme à Médine, il n'a jamais abandonné deux sunnas. La première et la dernière. Mais celles qui sont au milieu, il ne les faisait pas. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Omar a dit, « لو كنت مسبحا لأتممت » Si je voulais faire les prières facultatives, j'aurais fait déjà l'obligatoire. Et ça, c'est le savoir, le vrai savoir des vrais musulmans. La sunna de cette prière, c'est la faire très très courte. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, la faisait très très courte, d'une manière générale. Il récitait, c'est lui qui nous a enseigné ça, il récitait la Fatiha et قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ et la deuxième c'est Al-Fatiha et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ. Il avait aussi une sunna que beaucoup beaucoup de gens ne font pas, c'est quelque chose de licite et quelque chose qu'on n'a pas compris le sens. C'est qu'il faisait cette prière et il se mettait sur son côté droit à la mosquée, il se reposait, qu'on appelle Baj'atu al-Fajr. C'est-à-dire il se reposait. Parce que après le premier Adhan, on fait cette. Et il savait qu'entre l'Adhan et la pratique de la prière, il y a à peu près 20 à 30 minutes. Et durant ce moment, ben, il regardait les gens venir et lui, il était comme ça. Ben, regardez, imaginez, il était comme ça, tranquillement, et tout le monde le laissait tranquille. Personne n'osait s'approcher de lui. C'était ce moment de repos, parce que, peut-être ça c'est pas pour nous, parce que nous on a traversé toute la nuit en train de ronfler, mais lui il n'a pas passé toute la nuit, lui sa nuit était une autre nuit, la nuit du prophète alayhi salam. C'est pour ça qu'il se donnait ce moment de repos, parce qu'il savait que juste dans quelques minutes, il va encore faire une prière très longue, qui est la prière obligatoire. Ça aussi, c'est une prière longue. C'est pour ça qu'il se donnait ce moment. À vous de voir. Vous voulez la faire, ben faites-la. Vous ne voulez pas la faire, ben personne ne peut. Mais c'est quelque chose qui est licite.
Juste après la sunna.
Oui, juste après la sunna, en attendant de faire l'obligation. Par contre, si vous vous réveillez après le lever du soleil, ben aussi il faut respecter, vous faites la sunna, qui est l'ouitre, deux rak'as facultatifs, et vous faites l'obligation. C'est-à-dire vous respectez aussi l'ordre, et le prophète, alayhi salatu wasalam, un jour, il y avait une dispute entre les musulmans, et tellement c'était mauvais cette dispute. C'était mauvais, c'était quelque chose d'inimaginable. Comment ces gens, bon c'était pas les grands compagnons, mais c'était deux esclaves, deux serviteurs de deux compagnons. Le début de l'altercation était entre les deux serviteurs. Mais après, les patrons sont venus, et eux aussi ils étaient impliqués dans ce conflit. Et c'était un piège du shaytan et tout le monde est tombé dans ce piège. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, tellement il n'a pas aimé, et qu'elle a dit, allez, on part, on reprend le voyage. Il a voyagé tout le reste de la journée. Il a continué le voyage toute la nuit. Il a continué le voyage toute la journée. Imaginez combien de temps. C'est-à-dire, il s'arrêtait pour faire la prière, les prières de la journée ensemble, les prières de la nuit ensemble, et il donnait un petit moment pour se restaurer. Il dit, le voyage, allez, on reprend. Et à la fin de la deuxième nuit, ils étaient complètement épuisés. Et il a dit à Bilal, Bilal, toi, tu t'endors pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu vas nous réveiller pour le Fajr. Il dit, d'accord. Et le pauvre Bilal, il est resté sans dormir. Et ils se sont réveillés avec la chaleur du soleil. Et le premier qui s'est réveillé, c'est le prophète, alayhi salatu salam. Il a réveillé Bilal. Il était déjà dans un sommeil profond. Il était fâché contre lui. Il dit, mais pourquoi tu ne nous as pas réveillé? Il a dit, j'étais pris par la chose qui t'a pris. C'est-à-dire, tu ne peux pas me critiquer sur quelque chose qui t'a pris. Et ça, c'est l'intelligence de ces gens-là qui savaient la réponse automatique. C'est vrai qu'il était le prophète d'Allah. Et la critique qu'il a formulée, c'était quelque chose de spontané, d'émotionnel, de naturel. Pourquoi tu t'es endormi? Il s'est fâché contre... C'était seulement deux moments durant toute sa vie qu'il n'a pas fait la prière à ce moment. C'était le deuxième moment. Et il était très dérangé. Pourquoi le prophète Allah n'a pas fait la prière à son temps? Il a dit, pourquoi tu ne nous as pas réveillés? Il a dit, je m'étais endormi comme toi. Il a dit, oui, tu as raison. Changeons de lieu. Ils ont changé de lieu. Il a fait la sunna du Fajr individuellement. Et tout le monde, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Ça n'a jamais eu lieu. Ils attendaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Et ils ont vu qu'il a commencé à faire la sunna. Ils ont fait la sunna. Et il a fait l'obligatoire. Ils se sont mis derrière lui. Et il a récité le Coran à voix haute. Comme si c'était la prière de la nuit. Donc vous aussi, vous devez faire la même chose. Même si, bon, faut pas suivre ce que je viens de vous dire maintenant. Vous devez vous réveiller à ce moment, Inch'Allah, et faire la prière, Inch'Allah. Ça concerne la sunna de l'Al-Fajr. Avez-vous une question sur le fait? Bon. Sunna al-Dhuhr. Tout d'abord, j'ai oublié de vous dire que les prières facultatives, c'est au nombre de 12. La sunna de la prière du Dhuhr. Le prophète, alayhi salatu salam, avait plusieurs habitudes. Il avait trois façons de faire la sunna du Dhuhr. Tout d'abord, deux avant et deux après. Et ça, c'est le plus courant. Il avait quatre avant et deux après. Et il avait aussi quatre avant et quatre après. Et le plus courant, c'est ce que je viens de vous dire. Il a dit, alayhi salatu salam, celui qui a fait deux avant Dhuhr et deux après Dhuhr, Allah subhanahu wa ta'ala va interdire son corps de l'enfer. Mais vu que celle qui était avant Dhuhr, c'est-à-dire avant l'obligation, il le faisait à la mosquée, celle qui était après, il ne le faisait pas dans la mosquée, mais lorsqu'il retournait chez lui. Chose que beaucoup de musulmans ne font pas, à part ceux qui veulent suivre la sunna du prophète, alayhi salatu salam. Si des fois, il arrive et il n'a pas le temps pour faire la sunna avant Dhuhr, vous entrez, vous trouvez l'imam qui fait déjà la prière, vous faites avec lui, vous avez le droit de la récupérer. Celle que vous n'avez pas faite avant. Vous faites deux avant et vous pouvez faire deux pour la sunna d'après. Il y a même une autorisation qui dit que un jour il est venu et il a fait après l'asr. C'est pas après Dohr. Après l'Asr, il a fait une prière de deux rakats. Et tout le monde était étonné. Et personne n'a osé lui demander. Et on est allé envoyer un émissaire à son épouse Oumou Salama. On a dit, Oumou Salama, tu veux bien lui dire quelle prière il a fait maintenant? Et Oumou Salama a envoyé quelqu'un. Il a dit, Oumou Salama te demande quelle prière tu as fait maintenant. Il a dit, j'ai oublié de faire Dohr parce que j'étais la sunna avant Dohr et le seul moment que j'avais c'est maintenant. Donc ça c'est l'exception. Certains savants ont dit que ça c'est réservé pour le prophète alayhi salatu wasalam. Mais la majorité ils ont dit non, ça c'est quelque chose qui est autorisé à sa communauté parce qu'il ne nous a rien dit. Il est aussi autorisé à ce que si vous faites les quatre, ce qu'on a dit, il avait soit deux avant, soit deux après. Soit quatre avant et deux après, soit quatre avant, soit quatre après. Celles qu'on fait quatre, soit on les fait deux par deux, c'est la meilleure solution. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, salatu al-layli wa al-nahar matna matna, la prière de la nuit et des jours, deux, deux. Deux, toujours deux. Comme vous voyez, ici durant la salat tarawih du Ramadan. Mais vous êtes aussi autorisé à les faire d'affilée, c'est-à-dire quatre rak'a d'affilée avec une seule salutation. Ça aussi, il est autorisé de le faire. Avant l'Asr, il est autorisé de faire avant l'Asr, 4 harakas, mais ça n'entre pas dans les 12. Ça n'entre pas dans les 12. Maintenant, vous avez 2 de l'Fajr, vous avez 2 et 4 de l'Asr, c'est-à-dire soit 2 et 2, ça font 4. Soit 4 et 4, soit 4 et 2. À vous de choisir ce que vous voulez. La prière du Maghreb. Mais après l'Asr, il n'y a aucune prière. Il n'y a aucune prière après l'Asr, il n'y a aucune. Sauf celle que je viens de vous dire maintenant, ce cas de figure que quelqu'un n'a pas fait la sunna du Dohr, il peut la récupérer après l'Asr, mais d'une manière générale, après l'Asr, il n'y a rien.
Et avant,
il est autorisé de faire avant, mais ça n'entre pas dans ce groupe des 12, c'est-à-dire sunan al-rawatib. Que veut dire, oui, j'ai oublié de vous dire al-ratib, que veut dire sunan al-rawatib? Sunan al-rawatib, ça veut dire les sunan que le prophète alayhi salatu wasalam a respecté durant toute sa vie. Ce sont les 12. Après les 5 obligatoires, il y a les 12 facultatives. Ben, ces 12 facultatives, ça, elles s'appellent al-rawatib, c'est-à-dire il les respectait tout le temps. Donc, avant l'Asr, il est autorisé. Il est autorisé de faire 4. Mais ce n'est pas sunna. Mais d'une manière générale, le moment de l'Asr jusqu'au coucher du soleil, c'est un moment d'interdiction. Sauf à quelqu'un qui n'a pas fait la prière obligatoire. Sauf à quelqu'un qui rentre, par exemple, dans la mosquée et il n'a pas fait les salutations. Il est autorisé de faire les salutations. Mais d'une manière générale, le moment de l'Asr, c'est un moment pour faire d'autres adorations. Et ça, la pratique des grands savants, c'est qu'ils ont réservé ce moment de l'Asr pour d'autres obligations, comme pour l'enseignement, comme pour apprendre le Coran, comme pour s'occuper de leur famille, ainsi de suite. Mais le moment de l'Asr, comme vous voyez, c'est un moment qui peut être très très long, mais il n'y a aucune obligation, et d'ailleurs c'est interdit. L'école malikite est très difficile dans ce sens. L'école malikite, pour eux, tout est interdit. Absolument tout. Même enterrer quelqu'un est interdit. Toutes les prières sont interdites. Toutes les prières sont interdites. Toutes, sans aucune exception. À part l'obligatoire. Mais pour l'école malikite de l'Asr, jusqu'au coucher du soleil, il n'y a aucune prière. Absolument aucune. Et ils se sont basés sur le hadith du prophète, qui a interdit ce moment. Celle du Maghreb. Le prophète alayhi salatu salam avait l'habitude de faire 2 rak'ah chez lui après le Maghreb. Avant, il n'y a pas. Mais c'était un moment qui était libre. Si certains voulaient faire, il l'autorisait. Mais si vous ne voulez pas faire, ben personne ne peut vous obliger. Les compagnons du prophète, avant que l'imam commence à faire la prière, il y a ceux qui faisaient et ceux qui ne faisaient pas. Avant la prière du Maghreb. Mais après, unanimement, il y a 2. Et il récitait la même chose que les récitations que je vous ai dites par rapport à la prière du Fajr. Avant, c'est vous êtes autorisé de faire. C'est pas une sunna. Quand on dit une sunna, c'est-à-dire une sunna ratiba. Une sunna qu'il faisait, alayhi salatu wasalam. Il a dit faites avant la prière du Maghreb, faites la prière avant le Maghreb, à qui il veut. C'est quelque chose qui est ouvert, qui il veut. Mais dans les pays malikites, dans les pays du Maghreb, même ça c'est interdit. Pour eux, il n'est autorisé de faire la prière qu'après la prière obligatoire du Maghreb. L'interdiction ne prend fin qu'après la prière du Maghreb. C'est tout ce qu'il y a par rapport à la prière du Maghreb, c'est seulement 2, mais chez lui. Il ne le faisait pas à la mosquée. Après l'Isha, oui.
Je faisais la même chose que pour
la récitation, c'est-à-dire قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. La récitation coranique. Avant de faire la prière de Al-Isha, avant de faire la prière de Al-Isha, il n'y a rien. Il n'y a rien de recommandé par le prophète alayhi salatu salam. À l'exception d'un hadith que vous devez savoir par cœur. Il a dit, entre 2 appels de la prière, il y a une prière. Bayna kulli adanayni salat. Ce que veut dire appel à la prière, al-adan, le premier appel, et al-iqama, qui est le second. Ce sont les 2 appels à la prière. Il a dit, entre les 2, c'est un moment de faire la prière. C'est un moment à vous de le maîtriser. S'il y a par exemple ici, on fait 10 minutes, si vous voulez faire les prières dans ces 10 minutes, ben, personne ne peut vous interdire. C'est quelque chose qui est autorisé. Mais elle n'entre pas dans les 12. C'est avant l'Isha, elle n'entre pas dans les 12. Mais c'est un moment qui est libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Mais ça n'entre pas dans l'obligatoire. Parmi aussi les sunan, c'est al-witr. Al-witr, c'est l'unité, l'impair, après al-isha. Le prophète, alayhi salatu salam, a dit, faites l'witr, en vous les gens du Coran. C'est-à-dire, il y a ahl al-Qur'an, à qui ce Coran est révélé. Parce que Allah est impair et il aime le chiffre impair. Inna Allah witrun yuhibbu al-witr. Et ce witr du prophète alayhi salatu salam, le temps de ce witr, selon la majorité des savants, une bonne partie des savants, c'est entre al-isha et al-fajr. Il y a un autre avis qui dit que c'est à la troisième partie de la nuit. À la première partie de la nuit, il prend fin. Mais l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que cette rak'a qu'on doit faire, et cette seule unité qu'on doit faire, impair, et le temps qu'on a le droit de faire. Je commence à me fatiguer, je crois que c'est le sucre. C'est jusqu'à la prière du Fajr. Si vous avez l'habitude, chose que je vous souhaite, Inch'Allah, si vous avez l'habitude de se lever avant le Fajr, ce moment intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous levez une heure avant la prière du Fajr, vous faites des prières le nombre que vous voulez, ça c'est la meilleure chose. Ça c'est la meilleure. C'est-à-dire laisser la prière du Witr après votre coucher, vous réveillez avant la prière du Fajr, vous faites ces quelques rak'a pour Allah et vous attendez l'arrivée de l'obligation. Ça c'est l'excellence. Mais si vous voulez la sécurité, avant de dormir, vous faites le Witr. Ça c'est la sécurité. Vous avez la difficulté du choix. Si vous voulez suivre Abu Bakr, ben vous prenez la vie de la sécurité. Ben c'est ça le tempérament d'Abu Bakr. C'est que il voulait finir ses comptes avant de dormir. Je fais ma prière obligatoire, je fais le Witr et je me couche. Si je meurs, Allah ne me demande rien. Ça, c'est la sécurité. Et le prophète, alayhi salatu wasallam, lui a dit, quand est-ce que tu fais ton witr? Il dit, avant de dormir. Il a dit à Omar, quand est-ce que tu fais le fajr? Il dit, après me lever, après mon sommeil. Et il dit, toi, tu choisis, il a dit à Abu Bakr, toi, tu choisis la certitude. Et elle a dit à Omar, et toi, tu choisis la rigueur. La force. Toi, c'est quelqu'un qui est sûr qu'il va se lever et il va faire la prière et il fait le witr et il attend le fajr. C'est ça le tempérament de Omar. Omar, c'est quelqu'un qui avait un moteur de 200 000 cylindres. Tellement il n'a jamais choisi la facilité. Il savait que c'était quelqu'un, c'est quelqu'un d'un grand tempérament. Il choisit ce qui est meilleur. Un jour, il a fait la prière du Fajr avec les musulmans. Il était l'imam. Et il s'est laissé. Il a laissé à sa personne la liberté de réciter. Elle récitait. Et le jour s'est levé. Et le soleil s'approchait. Et à la fin, il a fini sa prière. Les gens étaient gênés, très très gênés, non pas parce que c'était lent, non, parce qu'ils avaient peur que le soleil se levait. Et lorsqu'à la fin, quelqu'un lui a dit, « Amir al-Mu'minin, le soleil a failli se lever. » Il a dit, « Malheur à toi, même s'il se lève, il va nous trouver en train d'adorer Allah. » Ça, c'est une autre dimension de Omar. Il dit, « Mais même s'il se lève, est-ce que tu me fais peur ? Même s'il se lève, ben, on n'est pas en train de faire l'interdiction, et on est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. » Mais Abu Bakr, non. C'est quel Abu Bakr? C'est quelqu'un de bien cadré, quelqu'un de très ordonné, quelqu'un qui voulait sortir de la vie avec la certitude, en ayant rempli son contrat, en ayant tout et rien de reproche par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le tempérament d'Abu Bakr. Son serviteur lui a apporté une nourriture. Il avait très faim. Lui, il était comme un clou, Abu Bakr. On avait peur qu'il soit pris dans le courant d'un vent. Il était très très mince. Et il a mangé, il avait très faim, il a mangé. Et c'est à la fin, il a dit à son serviteur, il a dit, d'où as-tu ce repas? Et à ce moment-là, son serviteur a commencé à rire. Il a dit, d'où as-tu eu ce repas que tu viens de me donner? Il a dit, avant que je devienne musulman, j'ai fait une sorcellerie à quelqu'un, et il ne m'a pas payé. Et c'est seulement aujourd'hui qu'il m'a payé, j'ai acheté cette nourriture avec. Ben, c'était la catastrophe de sa vie. Il s'est mis sur ses genoux, il a mis sa main, ses doigts dans sa bouche, il a commencé à vomir. Jusqu'à ce qu'il a eu la certitude presque qu'il n'y a plus d'aliments. Et malgré ça, il faisait. Jusqu'à il n'y a plus rien. Que de l'eau. Et il commençait à pleurer. Et il faisait encore et encore. Et on a dit, tu vas mourir, Abu Bakr. Et à la fin, il a levé son visage, il a dit, Seigneur Allah. C'est tout ce que j'ai pu faire. pardonne-moi si cette nourriture s'est infiltrée dans mes veines. Je ne peux rien faire. Ben, imaginez le comportement de quelqu'un, de cette personne, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait, un petit doute, il l'arrêtait. Ben, c'est ça le comportement, à vous de voir. Un jour, le prophète, une autre petite histoire, hein, le prophète s'est passé, à côté de chez lui, il le trouvait en train de réciter le Coran de nuit, parfois très très basse, qu'on a de la peine à écouter ce qu'il disait. Et le prophète passait à côté de son voisin qui était Omar, juste à côté. Et sa voix transperçait le calme de la nuit. Et le lendemain, il a dit à Abu Bakr, pourquoi tu récitais ta prière de la nuit à voix basse? Il a dit, je récitais, ma voix était audible à celui qui écoute toutes les voix. Très belle réponse. لقد أسمعت من نجيت. C'est-à-dire, moi je ne m'adresse pas aux hommes, je m'adresse à Allah. Et Allah sait le degré de ma voix, qu'elle soit voix basse ou voix haute. Il avait raison. Il a dit à Omar, pourquoi tu récites à voix haute? Et Omar a dit, أوقد الوسناء. Je fais éveiller les dormeurs. وأطرد الشيطان. Et je refoule le diable. S'il s'approche, ben ma voix va l'empêcher de venir. Et les deux réponses sont justes. Je crois que c'est un peu difficile de choisir laquelle des deux. Parce que les deux étaient sincères. Mais il a dit, la réponse du prophète, alayhi salatu salam, c'est le juste milieu. Il a dit à Abu Bakr, lève ta voix un peu. Il a dit à Omar, rabaisse le ton de ta voix un peu. C'est-à-dire, le juste milieu. Et surtout, ça c'est la recommandation du Coran, وَلَا تُجَاهِدْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Ne récite pas ta prière de la nuit à voix basse et ne la récite pas à voix haute et choisis le juste milieu. Le prophète alayhi salatu salam, on a vu comment il faisait durant cette prière de la nuit. Des fois, il la faisait à la première partie de la nuit. Des fois, il la faisait à la fin de la nuit. Et des fois, il l'a fait au milieu de la nuit. Pour dire que tout était autorisé. Tout est autorisé. Et c'est selon vos possibilités. Selon le solstice. Est-ce que c'est l'hiver, c'est l'été, selon votre... force selon votre possibilité, ainsi de suite. À vous de voir, à vous de regarder votre emploi du temps avec Allah subhanahu wa ta'ala comme vous voulez. Mais d'une manière générale, il est préférable de la faire au dernier tiers de la nuit. La nuit, en islam, se compose du lever, du coucher du soleil jusqu'au lever du jour, jusqu'à Fajr. Ça c'est la nuit. C'est-à-dire le moment où on a le droit de manger durant le Ramadan, du Maghreb jusqu'au début de la prière. Donc si le Maghreb c'est à 8 heures et le Fajr c'est à 6 heures. Donc entre 8 heures et 6 heures, il y a combien? Il y a 10 heures je crois. Donc vous divisez 10 heures par 3. Ben le meilleur moment, c'est les 3 heures qui sont juste avant le Fajr. Donc à peu près à 3 heures du matin. Autour de 3 heures du matin est le meilleur moment. L'été, c'est beaucoup moins, parce que la nuit de l'été est très courte. D'une manière générale, ça c'est le meilleur. Mais il est autorisé à le faire soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Quel est le nombre? Quel est le nombre du witr? Selon les hadiths du prophète alayhi salatu salam, il est rapporté qu'il l'a fait une fois 13 raka, 2, 2, 2, 2, 2, et puis à la fin 1. Il a fait 11, il a fait 9, il a fait 7, il a fait 5, il a fait 3. Et même on a rapporté que 10 compagnons du prophète alayhi salatu salam, 10 compagnons faisaient une seule raka. et seul. Donc, à vous de voir. Si à un moment, un jour, vous êtes une soirée, vous êtes très fatigué, et vous avez de la peine à faire la prière, faites la prière du Isha, et après vous faites et après vous faites la prière, une seule raka'a, et allez vous coucher. Ça aussi la facilité. Un jour vous avez la lucidité, vous avez la force, et ainsi de suite, ben faites 11. Et d'une manière générale, le nombre de 11, il est le préférable. Et c'est l'avis de Aïcha, radiallahu anha, qui disait, le prophète, alayhi salatu salam, ne faisait de prière de la nuit, soit dans le ramadan ou en dehors du ramadan, que 11 rak'ah. Ce que nous faisons aujourd'hui, ici durant le ramadan, c'est 11. Ça, c'est l'avis qu'ont choisi beaucoup de savants. Faire plus que 11, c'est autorisé. Par exemple, à la Mecque, ils font le ramadan, ils font tarawih, je crois, 20. Au Maroc ou en Algérie, ils font 23. Inch'Allah, je crois que tout est autorisé, mais l'avis le plus préférable, la conformité de la sunna, c'est 11 rak'ah. Donc faites 2, et 2, et 2, et 2, et ainsi de suite. Vous êtes autorisé à réciter dans ces rak'ah ce que vous voulez. Rien n'est stipulé dans l'islam, les 2, les 4, les 6, les 8. Rien. À part les 3 dernières. Les 3 dernières, il est dit textuellement que le prophète alayhi salatu salam faisait la 9e, il restait surat sabbih isma rabbika al-a'la. La 9e, la 10e, il récitait Qul ya ayyuhal kafirun, et la 11e, Qul huwallahu ahad, pas plus. Durant les prières de tous les jours qui étaient durant le ramadan, c'est celle de Cheikh al-Qahtani qui était conforme. C'est-à-dire la 9e, la Fatiha et Sabbih isma rabbika al-a'la. La 10e, c'est la Fatiha, Qul ya ayyuhal kafirun. La dernière, la Fatiha, et Qul huwallahu ahad, pas plus. Ça, c'est la vraie sunna. Comme je viens de vous le dire maintenant. Al-Qunut. Al-Qunut, c'est le fait de après le recours, on fait ces invocations, que vous connaissez tous. Allahumma adina fi man hadait, et ainsi de suite. Il est autorisé à faire le qunut durant toute l'année, pas seulement durant le ramadan. Toute l'année. C'est pour ça, chaque soirée chez vous, avant de descendre pour faire les sujoud, faites le qunut comme on fait durant le ramadan. C'est toujours autorisé. Et dans cette invocation, il faut apprendre ce hadith par cœur. Allahumma adina fi man hadait. Vous connaissez cette invocation? Mais lorsque l'imam la récite, ne faites pas comme le font beaucoup de musulmans et de musulmanes, amin, amin, amin. Et parce que des fois on entend des bêtises. Allahumma adina fi man hadait, amin. D'accord, c'est bon, c'est juste. وَعَفِنَا فِي مَنْ عَفَيْتْ, c'est juste. وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتْ, c'est juste. C'est-à-dire, Seigneur Allah, guide-nous parmi ceux que tu as guidés, c'est juste. Donne-nous la guérison parmi ceux que tu as donné la guérison, c'est juste. وَتَوَلَّنَا, donne-nous l'assistance parmi ceux que tu as donné l'assistance. Et puis on dit au milieu, فَإِنَّكَ تَقْضِي بِالْحَقِّ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, parce que tu décrètes la vérité et personne ne peut la décréter sur toi. Et certains frères disent, حَقًا, c'est une vérité, et ça c'est erroné. Aucun savant n'a dit ça. C'est pourquoi ils font sortir de ces paroles, Allahu A'lam. Normalement, lorsque l'imam, il dit ce hadith, on se tait. On dit Amin au fond de nous-mêmes. Si c'est une invocation, on dit nous-mêmes, on dit Amin. Si c'est un louange, on se tait. Si il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, On se tait, on ne dit rien. Moi, je dis, Allah, t'es beau. Je ne dis pas, Amin. Je ne dis pas, c'est vrai. Mais lorsqu'il dit, Allah, donne-moi ceci, je dis, oui, Amin. D'une manière générale, l'imam derrière le ma'moum, derrière l'imam, il se tait. Et malheureusement, on a cessé de le répéter. On se tait, Allahu Akbar, si takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout ça, c'est dans le secret. À voix basse, complètement basse. Amin, amin, comme ça, tout ça. Même pour les hommes, je veux dire, pour les hommes, on ne doit rien dire. À part amin, c'est la seule exception. Amin, tout le monde, homme, femme, tout le monde. Amin. Pourquoi? Parce qu'il a dit, celui qui a fait que son amin était au même moment que les anges, Allah lui pardonne ses péchés. Salam. Normalement, on fait après le recours. C'est ça. Al-Qunut, du'a al-Qunut. On le fait après le recours. Ça, c'est vrai. Mais on a aussi l'autorisation de le faire avant. Dans l'école malikite, c'est-à-dire sunné dans cette école, c'est pour ça que je me réfère dans ça, c'est elle a dit qu'il est autorisé de le faire avant. Et ils ont aussi un hadith authentique du prophète, alayhi salam. C'est pour ça, vous pouvez des fois le faire avant, mais la majorité des cas c'est après. Quand est-ce qu'on fait donc le qunut? C'est dans le witr, la prière du witr. L'école shafi'ite, il a dit dans la prière obligatoire de Al-Fajr. Ça, ce n'est pas vrai. C'est dans Al-Witr. Mais il y a aussi un autre qunut que beaucoup de musulmans ignorent. Beaucoup de musulmans ignorent un deuxième qunut, c'est-à-dire cette prière d'invocation. Et celle-là, elle peut même être dans l'obligation. Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha, donc même la prière obligatoire, elle peut se faire. C'est le qunut des catastrophes. Les qunut des crises. Vous avez une crise, une catastrophe, un malade, une grande peine qu'Allah vous évite tous les malheurs, vous avez de la peine, ben vous avez tout à fait le droit de se réfugier au moment de cette prière, l'obligatoire. Vous avez quelqu'un de malade, et vous, il y a la prière obligatoire, ben vous vous levez, vous ne dites plus « Allahumma hadina fi man hadaï » le premier qunut, non. Vous levez votre main et vous dites « Allah donne la guérison à mon malade. » Et vous avez le droit de dire, votre malade c'est Idriss, « Seigneur Allah donne la guérison à mon fils Idriss. » Et le prophète alayhi salatu salam avait cette habitude. Lorsqu'il avait des crises, lorsqu'on a assassiné 70 savants du Coran, durant des semaines, il n'a cessé de demander à ce que Allah envoie son châtiment contre deux tribus. Et il lui disait, Allahumma intaqim min Udar wal Qara. Il l'a fait durant des semaines et des semaines, et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au moment des catastrophes, au moment des difficultés, on est autorisé. Et ça, malheureusement, beaucoup de musulmans ignorent ce deuxième qunut. Le premier, ça s'appelle al-qunut de l'ibada. Vous faites qunut pour adorer Allah. Vous devez réciter ce hadith qui est dit Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sarif 'anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi bil haqq wa la yuqda 'alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt. Point. Nos imams, ils ajoutent toute une littérature. Et ils font des doigts au qunut comme vous avez entendu. Je me suis fâché, wallah. Une soirée, j'ai invité un des imams en haut et je lui fais entendre des choses. Il dit, t'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ce que tu as fait aujourd'hui. Je suis très très fâché. Et je dis quoi? T'as fait une invocation durant 30 minutes. Tu crois qu'on est content? Ben, on n'est pas content. Et les gens n'étaient pas contents. Il y avait des gens qui étaient très malades. Ils avaient de la peine. Ça, c'est adorer Allah par la quantité. Et même le Cheikh Soudais, l'imam de la Mecque, un jour, lorsqu'il a fait la clôture du Coran, et il a fait la clôture du Coran, le doa, l'invocation, durant 45 minutes. Vous ne pouvez pas imaginer les critiques qu'il a reçues. Le plus grand savant de l'époque a écrit une lettre publique. Il lui a dit, ce que tu as fait est contraire à la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, il n'a jamais fait ça. Il ne faut pas prendre les musulmans en otage. Parce que finir la prière avec l'imam est une grande récompense. Diront le Tarawih. C'est une grande récompense. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, si quelqu'un parmi vous fait sa prière du ramadan jusqu'à la fin avec son imam, il est inscrit pour lui, c'est comme s'il a fait la prière toute la nuit. C'est pour ça qu'il est bien de rester avec l'imam jusqu'à la fin. Mais l'imam aussi ne doit pas profiter de ce statut pour faire des prières longues, très très longues. Non, il n'a pas le droit. C'est pour ça qu'il faut se limiter à la sunna. Quelques invocations, on peut ajouter quelques... Mais il faut tout le temps imaginer la facilité pour les musulmans. Tout le temps la facilité. Certains disent ça c'est une... Non, mais la sunna, l'émotion des fois, elle prédomine sur certains. Ils disent mais ça c'est bien, le ramadan c'est pas toute l'année. Celui qui ne veut pas, il peut s'asseoir. Mais ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu m'obliges à m'asseoir? Pourquoi tu me dis que je rentre chez moi-même? Donc je viens pour finir avec l'imam. Donc l'imam aussi, il doit en mettre tout le temps, mais se mettre dans la tête qu'il est responsable aussi des musulmans. Aussi ces hadiths, ces invocations préfabriquées comme ça, je crois que ça, ce n'est pas conforme à la sunna. Le prophète, alayhi salatu wasalam, n'avait pas l'habitude de s'efforcer à formuler quelques paroles pour faire joli. Ça, ce n'était pas son compte, ni son comportement, ni son souci. Le plus grand souci du prophète, alayhi salatu wasalam, c'était la sincérité. C'était la parole qu'il prononce, il doit être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais essayez de revivier cette sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est-à-dire ce qunut des catastrophes, qu'on appelle qunutun nawazil. Qunutun nawazil, c'est le qunut des catastrophes. Allah vous évite les catastrophes, mais ça c'est très recommandé. Et je finis ce sujet, par quelque chose, c'est que cette façon, lorsque vous invoquez Allah, la façon du prophète alayhi salatu wasalam, c'est celle-là. C'est qu'il joignait ses mains et il demandait de cette façon. Mais il n'a jamais fait passer sa main sur son visage. Jamais. La chose, ce comportement que font nos frères ou nos sœurs, il n'est pas conforme. Il n'y a aucun hadith authentique. Il y a un hadith, mais il n'est pas vrai qu'il passait sa main. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est comme si quelque chose était dans la main. Et on se l'accroche sur le visage. On fait ce geste, et c'est tout. Pourquoi? Parce que lui, il faisait. Il le faisait. Exceptionnellement, des fois, à des moments exceptionnels, il levait ses mains. Comme la prière avant la bataille de Badr, lorsque les rangées des musulmans étaient alignées, lui, il était sur une petite colline. Il a commencé à demander le soutien et le triomphe d'Allah. Il a levé la main, et à la fin, il a atteint ce niveau. Il a commencé à demander à Allah jusqu'à ce que Abu Bakr avait de la peine pour lui. Il est venu par derrière, il l'a pris dans ses bras, il lui dit, Wallah, Allah ne t'abandonnera jamais. C'était comme un moment de transe pour le prophète, alayhi salatu wasalam. Mais d'une manière générale, c'est de cette façon-là. De toute façon là qu'on fait chosette, mais passer la main sur le visage, il n'a aucune authenticité, absolument aucune. C'est le chapitre des prières facultatives, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne, inshallah, le courage de faire et l'obligatoire, et inshallah aussi les prières facultatives. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
l'affiche là, du film, on a dit qu'on avait offert pour les jeunes.
Oui, quelle fiche?
On en avait parlé avec toi.
Oui.